VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahman Dia avec vous depuis Washington pour cette édition de 18h30 temps universel. Nous sommes mercredi 7 mars 2018 au sommaire. Libération au Congo de 4 proches du pasteur Toumi dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu du 27 décembre.
Je regrette pas, mais plutôt je me dis que j'ai gagné beaucoup de choses là où j'étais pendant une année dans la prison.
Manifestation à Conakry de milliers de femmes protestant les violences policières. Élections présidentielles, législatives et communales en Sierra Leone, 16 candidats en lice pour le fauteuil présidentiel. Début de la tournée du secrétaire d'État Rex Tillerson en Afrique, il est arrivé à Addis Abeba. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En République du Congo, 4 proches du pasteur Toumi libérés. Ces libérations sont le fruit de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu intervenu dans la région du Poul le 27 décembre dernier. De Brazzaville, la correspondance d'Ngwela Ngusu.
Ces ninjas du pasteur Toumi ont été arrêtés dans les villages et les forêts du Poul pendant le conflit armé. Ils ont ensuite passé plus de 15 mois en détention dans les commissariats de police et les genres des services de renseignement. Daniel Mbemba et Brice Batokokula ont exprimé leur gratitude, mais ne regrettent pas d'avoir suivi le pasteur Toumi.
Très difficile d'être incarcéré, torturé moralement. C'est que, bon, je me disais que tu avais choisi mon côté, au lieu d'être dans le CNRC mon côté. Donc pour mieux vivre dans le PCT, vraiment c'est cruel.
Non, je regrette pas, mais plutôt je me dis que j'ai gagné beaucoup de choses là où j'étais pendant une année dans la prison. Là où j'étais au PSP, contre-rage, le commissaire Morgan. Oui, je regrette rien.
La libération a eu lieu en présence du ministre de l'Intérieur Raymond Boulou et les représentants du pasteur Toumi, dont Jean-Gustave Ntondo et Anne-Philippe Bibi. Ce dernier a déclaré que de leur côté, il n'y avait jamais eu de détenus militaires. Pour le gouvernement, cette libération de 4 proches du pasteur Toumi est une étape importante dans la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu conclu entre l'armée et les ninjas en décembre dernier. Ngwela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, 18 travailleurs du parc de Kahuzi-Biega en mission ont été enlevés depuis 3 jours par des miliciens dans l'est du pays. Selon un responsable de la société civile, ces agents partis pour une mission d'inventaire de routine à l'intérieur de ce site ont été pris en otage par des Maïmaï Raya Mutobonki. Les miliciens demanderaient une forte somme d'argent en échange de leur libération. En Guinée, plusieurs milliers de femmes vêtues de blanc ont participé à une marche à Conakry. C'était pour dénoncer les violences policières meurtrières lors des manifestations politiques dans le pays. Eki Abadou.
En couleur du deuil, toutes de blanc vêtues, les manifestantes ont répondu à l'appel de l'UFDG, principal parti d'opposition. Entre 5 000 et 10 000 femmes ont défilé sur 3 km du rond-point d'Amdalaï Concasseur dans la banlieue de la capitale jusqu'au quartier de Bambeto. Elles portaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Trop de morts, l'État dort encore » ou encore « Alpha rime avec crime » en référence au président Alpha Condé. Les forces de sécurité n'étaient pas visibles long du parcours. Les manifestantes ont elles-mêmes mis en place leur propre service d'ordre. Ces manifestations sont liées d'une part aux élections locales du 4 février, dont les résultats sont toujours contestés par l'UFDG de Seloud Alain Diallo. Parallèlement, il y a la grogne des enseignants qui perdurent et un appel à la grève générale lancé par un puissant syndicat qui avait fait de Conakry une ville morte le 26 février dernier. La répression de ces manifestations a fait au moins 12 morts.
Le premier ministre malien Soumaïlou Boubey Maïga a reçu un avant-projet de loi d'entente nationale destiné à contribuer au retour de la paix dans ce pays en proie aux violences djihadistes. Dans son message de fin d'année, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait annoncé cette loi d'entente nationale exemptant de poursuites tous ceux qui sont impliqués dans une rébellion armée à condition qu'il n'ait pas de sang sur les mains, nous avons cité. Et dans une lettre ouverte au président Ibrahim Boubacar Keïta, 32 organisations de défense des droits de l'homme mettent en garde contre le double risque d'impunité et d'arbitraire d'une telle loi. Au moins 10 civils ont été tués par des éléments présumés de Boko Haram depuis le début de la semaine dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'ont déclaré des miliciens luttant contre les insurgés du groupe islamiste armé près de Dikwa. En août 2014, Boko Haram s'était emparé de Dikwa, forçant les habitants à fuir à Maiduguri. Des soldats tchadiens avaient alors repris la ville aux insurgés en mars 2015, mais les djihadistes continuent de lancer des attaques sporadiques sur cette ville. Et en Sierra Leone plutôt, on passe aussi à la Sierra Leone, où les populations ont voté dans des élections présidentielles, législatives et communales ce mercredi. Pour la présidentielle, il y a 16 candidats et 2 favoris issus des partis dominant la vie politique du pays depuis son indépendance. Dili Diko.
Plus de 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes après une campagne dominée par des accusations de corruption. Il y a 16 candidats pour le fauteuil présidentiel. Le président sortant Ernest Koroma, qui a fini ses 2 mandats, ne peut se représenter. Son parti a choisi comme porte-drapeau Samoura Camara, 66 ans, ancien ministre des Affaires étrangères. Le principal parti d'opposition est représenté par Julius Mada Bio, ancien général qui a été brièvement au pouvoir après un putsch en 96 et a été battu par M. Koroma en 2012. Enfin, Kande Yumkela qui se présente à la tête d'une nouvelle formation, la Grande Coalition Nationale. Ce troisième homme pourrait être le faiseur de roi lors d'un second tour très probable dans un mois. Les premiers résultats partiels sont attendus dans les prochaines 48 heures et les résultats définitifs d'ici 2 semaines.
Le président algérien Abdelaziz Bouteflika estime que le combat contre le terrorisme dans le monde arabe doit s'intensifier via l'éducation et la culture, mais aussi sur Internet. Dans un message lu à l'ouverture du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, Bouteflika a déclaré que le premier pas pour éradiquer le terrorisme consiste à infirmer ses références intellectuelles et à le priver de son environnement social et de ses réseaux de communication. C'était l'une de ses rares apparitions en public depuis qu'il a eu un AVC en 2013. Il est âgé aujourd'hui de 81 ans.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Éthiopie, la coalition au pouvoir se réunira à partir de dimanche pour désigner le successeur du premier ministre Haïlé Mariam Desalegn, qui avait annoncé sa démission le mois dernier. C'est la première fois en 27 ans de règne que la coalition du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens qu'un premier ministre quitte ses fonctions. D'ailleurs, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est arrivé aujourd'hui à Addis Abeba, première étape de sa tournée d'une semaine sur le continent. On fait le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le secrétaire d'État Rex Tillerson a été accueilli à son arrivée par son homologue éthiopien Wocnet Gebeyehu. Il rencontrera demain les responsables de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov a aussi atterri à Addis Abeba aujourd'hui. Toutefois, il n'y a eu aucune confirmation que les deux diplomates se sont rencontrés. Hier, à l'université George Mason, près de Washington, Rex Tillerson a déclaré que la sécurité des États-Unis et sa prospérité étaient plus que jamais liées à l'Afrique. Il a ajouté que son pays est engagé à construire une relation forte avec le continent, accusant la Chine d'encourager la dépendance dans son approche africaine. Le secrétaire d'État américain a annoncé que Washington va allouer 533 millions de dollars supplémentaires pour combattre la faim en Éthiopie, dans le bassin du lac Tchad, en Somalie et au Soudan du Sud. Sa tournée africaine va être axée sur la lutte contre le terrorisme, la promotion de la paix, la bonne gouvernance, le commerce et les investissements. Il se rendra aussi à Djibouti, au Kenya, en Angola, au Tchad et au Nigeria.
Ici aux États-Unis, la Maison-Blanche a confirmé ce mercredi son intention d'annoncer dans les jours à venir le détail des taxes qu'elle entend imposer sur les importations sur l'acier et l'aluminium aux États-Unis. Nous tablons toujours sur une annonce à la fin de la semaine, a indiqué Sarah Sanders, porte-parole de l'exécutif américain. Donald Trump a affiché la semaine dernière son intention d'imposer 25% de taxes sur les importations d'acier et 10% sur celles d'aluminium. Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont réunis ce mercredi sur le non-respect du cessez-le-feu d'un mois en Syrie, exigé dans une résolution adoptée le 24 février. Cette réunion, convoquée en urgence à la demande du Royaume-Uni et de la France, s'est toutefois tenue à huis clos. Le régime syrien a déployé aujourd'hui des centaines de combattants en renfort et accru la pression sur le fief rebelle dans la Ghouta orientale. Le tribunal des Nations Unies, créé pour juger les responsables de la mort de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri, a rejeté une demande d'acquittement de l'un des suspects, membre présumé du Hezbollah. Le tribunal spécial pour le Liban, basé à La Haye, a estimé que l'accusation avait fourni suffisamment de preuves pouvant justifier une condamnation de Hussein Hosseini, jugé par contumace avec trois autres suspects, également membres présumés du mouvement chiite Hezbollah, pour l'attentat ayant coûté la vie à Rafik Hariri, c'était en 2005. Et puis un rapport des ONG Project Justice Pakistan et Human Rights Watch ont dénoncé ce mercredi les violations des droits des Pakistanais incarcérés en Arabie Saoudite. Selon ces deux organisations, l'Arabie Saoudite exécute plus de Pakistanais que n'importe quelle autre nationalité, presque tous pour trafic d'héroïne. 66 d'entre eux ont été décapités entre 2014 et 2017. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on retrouve Eric Menerakiza pour la Minute Éco.
La production de phosphate en Tunisie a repris. Des mouvements sociaux étaient à l'origine de l'arrêt des activités depuis un mois et demi. Des camions transportant du phosphate ont pu partir de la mine d'Homme, Lakhchab, à Metlaoui, dans le centre-ouest, en direction d'un groupe chimique à Gabès, dans le sud. Le milliardaire américain ancien maire de New York, Michael Bloomberg, a annoncé au Cap, en Afrique du Sud, la création d'une ONG pour dénoncer les stratégies trompeuses de l'industrie du tabac. Baptisée Stop, elle sera dotée initialement de 20 millions de dollars. Monsieur Bloomberg a dit que les mesures visant à contrôler la consommation de tabac ont sauvé près de 35 millions de vies. Mais l'industrie du tabac s'obstine à trouver de nouveaux consommateurs, en particulier les jeunes, a-t-il précisé. L'Afrique du Sud a abrité aujourd'hui la 17e conférence mondiale tabac ou santé. En réponse au président américain qui menace de taxer les importations d'acier et d'aluminium, le président du Conseil européen a déclaré que les guerres commerciales étaient mauvaises et faciles à perdre.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
En Ligue des Champions, après la déroute du PSG, deux clubs anglais en piste ce soir pour la qualification.
Finaliste la saison dernière, la Juventus Turin a concédé le match nul à l'aller face à Tottenham et se retrouve en mauvaise posture, tandis que Manchester City entrevoit déjà les quarts de finale après sa victoire 4-0 à l'aller contre le FC Bâle. On suivra ça, le coup d'envoi de ces deux rencontres, 19h45, temps universel.
Sur le continent africain, suite des 16e de finale de la Ligue des Champions.
Et oui, les premiers résultats sont tombés. Match nul de l'Espérance de Tunis au Kenya chez Gor Mahia. Saint-Georges d'Éthiopie, match nul également à domicile contre Kampala City. Le Zanaco de Zambie battu sur son terrain, 2-1 par le club du Swaziland Mbabane. Le Zesco United à nouveau battu par l'ASEC Mimosa, le club ivoirien. Victoire facile de Mazembe. 4-0 face au club de Songo, c'est un club du Mozambique. Et puis la Douana Stars qui bat Sétif 1-0, la Estogoport qui bat 2-0 à l'Hilal du Soudan, le MFM FC du Nigeria qui domine 2-1 le MC Alger, le Primero de Agosto qui bat 1-0 Bitves Wits de l'Afrique du Sud, le Rayon Sport du Rwanda face à Mamelodi Sundowns, le Wydad de Casablanca face au WAC, l'autre WAC, celui de Williamsville à Abidjan. Et enfin, le Difa El Jadidi face à l'AS Vita Club.
La coupe aussi se joue ce mercredi.
À suivre Port-Louis de l'île Maurice contre le Fossa Junior de Madagascar, l'AS Maniema de RDC contre l'USM Alger, l'Olympic Star du Burundi face à Hilal El Obied du Soudan, le Welashta Dija de l'Éthiopie face aux Zamalek, et puis le Kara de Brazzaville contre Ben Gerdan de Tunisie, Al-Ittihad de Libye contre Aqua United du Nigeria, Energy Sport du Bénin contre Enimba du Nigeria, le Simba de Tanzanie face à El Masri d'Égypte, Costa do Sol de Mozambique contre Cape Town City, enfin le Djoliba du Mali face à la PR du Rwanda.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Porté par les 25 points de Chris Paul et les 23 de James Harden, les Houston Rockets ont pris le meilleur sur le Thunder d'Oklahoma City, une victoire 122-112. À Oakland, les Warriors de Stephen Curry ont battu Brooklyn, 114-101. Enfin, Toronto, vainqueur d'Atlanta, 106-90.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. Au Niger, les enseignants de l'université de Niamey sont en grève illimitée depuis 3 semaines. Ils protestent contre l'agression d'un des leurs par des étudiants. Le syndicat des enseignants-chercheurs conditionne la reprise des cours à l'exclusion des agresseurs. Les étudiants ont aussi saisi la justice. Le point avec le correspondant de VOA Afrique sur place, Abdulrazak Idrissa.
Les faits remontent au 7 février dernier. Comme chaque soir, au départ des bus de transport d'étudiants, la commission des affaires sociales et de l'ordre, la CASO, bloque le passage pour quelques minutes. Ce jour-là, un enseignant, voulant rejoindre son bureau, se présenta à elle. Il lui est demandé d'attendre comme tous les autres usagers, ce qu'il refusa en forçant le barrage selon les étudiants. Il est poursuivi à son bureau par des éléments de la CASO. Il aura la vie sauve avec l'intervention de certains de ses collègues, selon le syndicat des enseignants, qui se réunira 2 jours plus tard pour annoncer sa décision d'aller en grève illimitée si ses revendications ne sont pas satisfaites. Kabir Maman, secrétaire général du syndicat des enseignants.
La dissolution de la commission des affaires sociales et de l'ordre CASO et l'interdiction de la création de toute structure similaire par des étudiants. L'identification et l'exclusion immédiate et définitive de l'université Abomouni des étudiants identifiés comme responsable de l'agression exige du recteur de l'université Abou Moumouni, conformément aux franchises universitaires, de prendre des dispositions relatives à la présence permanente de la force publique sur l'espace universitaire en vue d'assurer la sécurité de toutes les composantes de la communauté universitaire. Enfin, exige l'exclusion des étudiants des instances délibératives de l'université Abou Moumouni.
Ces revendications, les étudiants et beaucoup dans l'opinion les trouvent exagérées. La structure des étudiants va tout de même tenter de négocier avec les enseignants. Sita Diabiri, secrétaire général du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey.
Imaginez que nous sommes partis vers ces enseignants-chercheurs dans un esprit de pouvoir dialoguer avec eux afin de trouver une solution et que c'est le SNEF qui nous tourne les dos. Et bizarrement, sur leur mot d'ordre, ils écrivent qu'ils sont disponibles à pouvoir dialoguer avec les étudiants et avec les différents partenaires. Mais quand on part vers eux, ils nous repoussent. Ça veut dire que ça a été juste une action pour pouvoir charmer l'opinion, de dire que eux, en tant qu'enseignants, ils sont disposés à pouvoir dialoguer avec nous. Or, on le sait, ce n'est pas le cas. Mieux, ils ont estimé qu'il y a eu une altercation en tant que petits frères, en tant qu'enfants que nous sommes. Pour eux, nous devons nous excuser. Nous nous sommes excusés à travers une lettre ouverte. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas encore de quoi persister dans cette grève-là parce que déjà, ils ont transformé cette université en un mouroir académique.
Là, de toutes les tentatives d'un règlement à l'amiable du problème, la structure des étudiants a saisi la justice pour qu'elle déclare la grève des enseignants illégale. La décision du juge est attendue le 13 mars prochain. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le Burundi dans le viseur des Nations Unies. L'ONU accuse la Commission burundaise des droits de l'homme d'impartialité et de minimiser les violations des droits de l'homme dans le pays. Accusation rejetée par cette commission qui vient de perdre son statut A. Toute chose qui pourrait se traduire par la suspension des aides extérieures qui faisaient vivre cette institution jusqu'ici. Pour en parler, John Lyndon a joint à Bujumbura Jean-Baptiste Baribone Kereza de la Commission burundaise des droits de l'homme.
Tout d'abord pour indiquer qu'on n'a toujours pas reçu la confirmation en fait de l'intérimat de cette décision et donc dans le cas actuel, la proposition en fait vise à rétrograder la CNDH du statut A au statut B.
Plusieurs organisations de la société civile au Burundi pensent que vous avez fermé les yeux sur les violations des droits de l'homme dans votre pays. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Notre réponse c'est que en fait à la lecture et de nos différents rapports et de nos enquêtes ainsi que de nos actions en termes par exemple de conseil et d'assistance aux victimes, nous restons évidemment une institution tout à fait indépendante. Et en réalité, quand on compare si vous voulez, mon rapport avec les rapports des ONG, je pense que c'est une démarche en fait qui n'est pas fructueuse, simplement parce qu'il y a certaines organisations, comme par exemple celles qui nous accusent d'impartialité en réalité, qui ont tendance, si vous voulez, à produire des rapports complètement fictifs, qui ne répondent pas à la réalité du terrain, et qui contiennent des fausses informations, des exagérations à des fins politiques. Mais nous, évidemment, notre approche, c'est de contribuer en réalité à la protection et à la promotion des droits de l'homme dans la vérité, n'est-ce pas? Surtout contribuer à l'éclosion de la vérité et de la justice, et non pas de servir des intérêts politiques.
Alors, vous parlez de réalité sur le terrain. À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette réalité au Burundi, en termes du respect des droits de l'homme?
La situation, pour le moment, est beaucoup meilleure, pour dire le moins. Ça veut dire qu'on a observé, évidemment, un certain nombre de violations au cours des années, n'est-ce pas? Mais nous pensons, au regard de la réalité objective, qu'il n'y a pas lieu de dire qu'il y a des violations qui sont très alarmantes. Le point que nous voulons faire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violations dans le pays. Mais cela veut dire simplement que les violations que nous observons, en fait, nous ressemblent davantage à des incidents isolés, en tout cas dans le contexte actuel, et que, en fait, les préoccupations qui restent, comme la question des réfugiés, par exemple, ou la question de la détention préventive prolongée dans certains cas, ou de la surpopulation carcérale, les problèmes de trafic des êtres humains ou de violences basées sur le genre, en fait, c'est des violations en fait, qui ne sont pas symptomatiques d'une crise. Et je pense que c'est vraiment là le point d'achoppement.
C'était Jean-Baptiste Balebon-Kereza depuis Bujumbura. Au Sénégal, les partisans du maire de Dakar, Khalifa Sall, en prison depuis exactement un an, ont manifesté pour dénoncer une nouvelle fois la détention de leur leader, une détention qu'ils jugent arbitraire alors que le verdict dans son procès pour détournement de fonds publics est attendu le 30 mars. Le point avec notre correspondant Seydina Abagay.
Venus d'un peu partout de la capitale sénégalaise, les militants et sympathisants de Khalifa Sall se sont donné rendez-vous dans l'enceinte de la mairie de Dakar pour marquer la première année de détention de leur leader. Depuis l'incarcération du député maire de la capitale, diverses activités sont organisées par ses camarades de parti pour convaincre les Sénégalais de son innocence. Bassirou Samb est un des coordonnateurs de ces activités de soutien.
C'est de montrer à la population sénégalaise que Khalifa Ababakar Sall n'a rien à se reprocher. Il n'y a ni détournement, ni escroquerie, ni violation de la réglementation en vigueur. Et cette manifestation a un caractère particulier parce que pour la première fois, toute la société civile sénégalaise est conviée à cette manifestation. Je considère cette manifestation comme le point de départ d'une lutte qui ne s'arrêtera que lorsque Macky Sall quittera ce pouvoir au soir des élections de 2019.
Bassirou Samb est convaincu que Khalifa Sall est victime de ses ambitions politiques.
C'est une détention qui ne repose sur aucune argumentation juridique, si ce n'est la volonté du président de la République de se choisir ses adversaires pour les prochaines élections présidentielles. Un an de séquestration, un an de tentative de musellement et de dénigrement d'un homme qui n'a fait que décliner une ambition pour son pays. C'est pourquoi nous jugeons que la détention de l'honorable député maire de Dakar est non seulement arbitraire, mais c'est une détention qui ne repose sur aucun argument juridique.
Du côté de la mouvance présidentielle, on affirme que ce procès n'a rien de politique. Amadou Niang, responsable du parti au pouvoir et chargé de mission à la présidence.
Nous sommes dans une démocratie. C'est des faits qui ont été reprochés à Khalifa Sall. Maintenant, c'est à lui de sortir du cadre politique et d'entrer dans le cadre judiciaire pour pouvoir argumenter et puis convaincre les juges. Nous ne sommes ni juges, nous ne nous mêlons pas de ça. Moi, j'estime que Khalifa Sall n'est pas un adversaire sérieux. On s'est rendu compte qu'au niveau du référendum, il a perdu. Pendant les élections législatives, il a perdu. Toutes les élections qui ont été organisées depuis l'avènement de Macky Sall sont gagnées par Macky Sall. Élections locales, élections présidentielles, élections référendaires, élections législatives encore une fois. Donc moi j'estime que Khalifa Sall n'est pas un candidat sérieux. C'est même pas un candidat.
En attendant le 30 mars, jour de verdict du procès du maire de Dakar, ses partisans convaincus de son innocence continuent le combat loin des salles d'audience. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, effectue sa première visite en Afrique avec pour escale le Tchad, Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya et le Nigeria. L'occasion de faire le point sur la politique africaine de l'administration Trump. Lutte contre le terrorisme, promotion de la paix, sécurité, bonne gouvernance, commerce, investissement. Quels sont les intérêts des États-Unis en Afrique ? Le nouveau locataire de la Maison Blanche va-t-il continuer la politique mise en place par ses prédécesseurs ? L'isolationnisme prôné par la Maison Blanche pourrait-il nuire aux relations entre les États-Unis et l'Afrique ? On en discute dans Washington Forum. Morgane Guiriac avec vous. Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur VOA.
L'Union européenne promet de riposter à la mesure annoncée par le président américain Donald Trump d'imposer 25% de taxes sur les importations d'acier et 10% sur l'aluminium. Pour savoir les mesures de rétorsion possibles contre Washington, Eric Manelakiza a joint à Paris la directrice adjointe de l'IRIS et spécialiste de l'économie internationale, Sylvie Matelli.
L'Union européenne ou la Commission européenne n'est pas du tout sur une logique de guerre commerciale. Donc bien évidemment, ils vont réagir sans pour autant rentrer dans une escalade. C'est pas la première fois qu'un président des États-Unis veut mettre en place des barrières tarifaires à l'encontre de produits européens. Les Européens exportent beaucoup plus aux États-Unis qu'ils n'importent des États-Unis. Donc ça, c'est important pour quand même comprendre à un moment donné que les Européens n'ont pas du tout intérêt à ce que le commerce entre les deux rive de l'Atlantique en soit réduit. Chaque année, les Européens gagnent à peu près 180 milliards d'euros dans leur commerce avec les États-Unis.
L'accès au marché européen est-il libre aux Américains ?
L'accès au marché européen est un accès relativement libre et relativement facile. Il n'y a pas de barrière en tant que telle. Les Européens ont construit un marché commun, les biens, les services, les capitaux, les personnes peuvent circuler totalement librement. Ça crée bien évidemment une distorsion de concurrence assez faible, mais qui existe malgré tout pour les entreprises américaines. Parce que quand elles veulent accéder à ce marché commun, elles doivent remplir des formalités de douane, elles doivent passer une frontière, parce que les États-Unis ne sont pas dans l'Union européenne. Il y avait le TIPP, ce fameux traité, qui devait finalement conduire à rapprocher les États-Unis de l'Europe pour que les entreprises américaines profitent mieux de ce marché commun. Le président Trump lui-même y a renoncé.
Le secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, affirmait que Washington ne cherche pas une guerre commerciale.
Les États-Unis, même s'ils enregistrent un déficit commercial avec l'Europe, leurs entreprises sont extrêmement intégrées avec les entreprises européennes et il y a beaucoup de relations d'affaires. Et contrairement à ce que semble croire le président Trump, c'est pas parce qu'on va arrêter ou freiner les échanges qu'on va réduire le déficit commercial et qu'on va avantager l'économie américaine.
Donald Trump veut réduire un déficit annuel de 800 milliards de dollars.
C'est pas par les tarifs et par les droits de douane qu'on s'attaque à ces raisons. C'est qu'au fond, on va pas chercher le cœur du problème et donc on ne donne pas des solutions qui répondent à ce problème. Donc dans un contexte normal, avec un président des États-Unis qui comprend les rapports de force, les enjeux économiques et commerciaux, ça réduira pas forcément le déficit, ça risque même de le creuser et ça risque en plus de ralentir la croissance économique aux États-Unis.
Sylvie Matelli, jointe à Paris.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. C'est au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci à Georges Léonard Sagnot qui l'a réalisé à la console Chang. Présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24.